Judith Gauthier, Fleur d'Orient, Comati. C'était au temps où Comati, la poétesse illustre, s'était exilée de la cour, abandonnant ses titres, ses biens, sa famille, pour s'en aller errer par les chemins en vivant d'aumône. Un soir d'été, qu'elle était assise à quelques pas de la pagode d'Alazi Hama, les regards fixés sur le flamboiement du crépuscule, elle vit, presque malgré elle, car il se trouvait dans le rayon de sa vue, un cavalier immobile sur la route de Kyoto. Il y a des moments, sans doute, où la solitude accable le solitaire. Sa philosophie sommeille et son esprit abandonné retourne aux ornières anciennes, revit la vie renier. Comati était peut-être dans un de ces instants-là, car l'apparition du cavalier sur le chemin lui fit oublier les splendeurs du couchant et retint toute son attention. 100 fois, elle avait vu passer des seigneurs et des princesses, ses compagnons d'autrefois, sans même tourner la tête, sans songer à les reconnaître. Et pourquoi remarquait-elle celui-ci? Elle s'efforçait, malgré la distance, de distinguer les insignes qui devaient être brodés sur les manches de ce cavalier, que, sans doute, elle avait connu, et elle clignait des yeux sous l'éclat du soleil. Sur son cheval, qui semblait changé en pierre, la silhouette de l'inconnu avait une singulière élégance. Mais il se détachait en sombre de l'horizon clair, et l'on ne pouvait rien voir de sa toilette, excepté la poignée de ses sabres, sur l'une desquelles il appuyait la main. Il se tenait en travers de la route, regardant du côté de Kyoto, et paraissant attendre. Comati remarqua qu'il n'avait auprès de lui ni page ni écuyer, ce qui était étrange pour un seigneur. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'attendait-il? Tout à coup, à un mouvement qu'il fit, Comati le reconnut, et elle se dressa avec un cri étouffé, comme si un reptile l'avait piqué. « Ah oui, hi-ha, c'est lui !» s'écria-t-elle. Puis elle se laissa retomber sur le tertre de gazon, pâle et les sourcils froncés. « Pourquoi ce cri ? » murmura-t-elle avec colère. « Mais pourquoi ce sursaut ? Mon cœur est-il comme une bête mourante qui retrouve encore un frisson de vie quand on met le pied sur elle ?» Et son regard, assombri, abandonnant le cavalier, resta attaché au sol. Cependant, après un long moment, elle eut un sourire calme et releva la tête. « Un rendez-vous, c'est certain, » dit-elle. Et elle regarda tranquillement l'homme qu'elle avait reconnu. Il avait changé de place, s'était dissimulé dans un bouquet de bois. Un groupe s'avançait sur la route. C'était un orimono de louanges porté par 2 hommes et soigneusement fermé. Un léger sifflement de haririra, le norimono s'arrêta et une femme, la tête couverte d'un voile de soie, en descendit vivement. Elle congédia d'un geste les porteurs et s'avança vers celui qui l'attendait. Il avait déjà mis pied à terre et un page, jusque-là invisible, emmenait le cheval. Le ciel s'éteignait. Il faisait sombre déjà sous les arbres. Comati entendit le bruit léger d'un baiser. Puis les amants s'engagèrent dans le sentier qui passait à 2 pas d'elle. Mais elle ne craignait pas d'être reconnue. Qui donc d'ailleurs irait regarder cette pauvresse assise au bord du chemin? C'était bien Harira qui s'avançait entre les buissons fleuris. C'était bien le vainqueur dont la beauté dangereuse affolait toutes les femmes de la cour et ne bornait pas à elle ses ravages. L'homme à l'élégance suprême, qui ne portait que des étoffes losangées d'or tissées pour lui seul, le cavalier incomparable, poète charmant. La femme qui s'appuyait des 2 mains à l'épaule de Narihira et le regardait avec extase avait rejeté son voile. Comati la reconnut. « Ah oui, Sako Tamura ! » murmura-t-elle. avec un ironique sourire. Pauvre prince Tamoura! C'était sa plus cruelle ennemie, la plus envieuse de ses rivales, celle qui lui avait fait le plus de mal au temps où elle pouvait souffrir. Ils passèrent, les parfums de leur toilette dominèrent un instant l'odeur des fleurs. Komati, inaperçu, resta là, le front dans la main, s'efforçant de chasser loin d'elle les visions qui l'assaillaient, des splendeurs et des trahisons de cette cour qu'elle avait fui depuis 3 ans. La nuit venait. Déjà la lune avait paru lorsque Komati fut tirée de sa torpeur par le bruit d'un galop de cheval. Elle se leva pour s'en aller dormir à l'abri de quelques pagodes et descendit jusqu'au bord de la route. En la voyant, un cavalier qui allait passer devant elle arrêta brusquement sa monture. « Vagabonde ! » cria-t-il en lui jetant une pièce d'argent. « Réponds et dis la vérité si tu veux pas mourir sous mon fouet. As-tu vu passer 2 amants il y a 1 heure environ et de quel côté sont-ils allés ?» Celui qui interrogeait, c'était le prince Tamoura. Komati n'avait qu'un mot à dire pour se venger cruellement des offenses anciennes. Mais elle baissa la tête, honteuse d'avoir éprouvé 1 seconde ce désir. « Mais es-tu sourde ?» cria Tamoura en levant son fouet. « Oh, il passe bien du monde sur cette route, » dit Komati, « et les amants ne sont pas rares. Pourtant, je crois avoir vu ce que tu dis, il y a 1 heure à peine. Ils étaient si magnifiques qu'il fallait, malgré soi, les remarquer. Ah, et où qu'ils se cachent, je les rejoindrai et je les tuerai tous les deux, » dit Tamoura en grinçant des dents. « Quelle route ont-ils prise ?»« Ils ont continué du côté de Kurama, » dit Komati, en étendant le bras vers l'est. Le prince s'élança dans cette direction et disparut bientôt au tournant du chemin. Le bruit du galop de son cheval s'éteignit peu à peu dans la nuit. Alors Komati retourna sur ses pas. Elle remonta le sentier, suivit le chemin par lequel Narihira et Hisako s'étaient éloignés tout à l'heure. Les allées se croisaient, s'en mêlaient entre les arbustes de plus en plus touffus, et Komati devait se baisser pour apercevoir des empreintes légères sur le sable fin. Elle marcha ainsi guidée jusqu'à la palissade d'un jardin qui semblait abandonné. Mais alors, comme effrayée, elle recula de quelques pas. « Hélas, hélas !» soupira-t-elle, « comme je suis méprisable encore. Ce jardin était à lui. Elle, la rôdeuse solitaire, qui ne voulait plus d'autre compagnie que celle des beautés de la nature, avait remarqué cet enclos désert, mais mieux fermé qu'il ne paraissait l'être. Elle s'était acharnée à vouloir y pénétrer et en avait fait le tour 100 fois, ramenée à lui par un singulier attrait, jusqu'au jour où elle avait découvert enfin et agrandi à son usage une brèche commencée par quelques bêtes des bois. À l'intérieur, ce jardin était un fouillis merveilleux, une exubérance folle des fleurs les plus rares. C'était un poème incomparable qui l'avait enivré longtemps. Mais il y avait une énigme sous ces fleurs, et elle s'était efforcée de la lire. Tout ce désordre, toute cette liberté de la végétation était artificiel. Aucun jardin n'était mieux tenu que celui-là. Elle n'avait pas tardé à le découvrir. Il y avait des trouées ménageant d'admirables échappées de vue qui semblaient dues au hasard, et pourtant toute branche qui venait les obstruer tombait sous des ciseaux invisibles. Les lianes étaient retenues par des fils de soie. Aucune feuille morte ne tachait jamais la mousse des sentiers. Au centre du jardin, sous un cèdre magnifique, s'élevait un large pavillon qui semblait prêt à s'effondrer de vieillesse. Mais Komati reconnut aussi que cette vétusté était feinte. La moisissure était un masque, l'affaissement du toit une tromperie. La maison, jeune et robuste, sous cette décrépitude apparente, devait cacher un intérieur somptueusement aménagé. Mais pourquoi tout cela? Le pavillon restait inhabité, elle n'avait jamais pu apercevoir les jardiniers qui soignaient le jardin. Peut-être venait-il par un souterrain. Enfin, après 1000 conjectures, peuplant sa solitude, elle avait imaginé quelque pieux désespoir et considérait le jardin comme le tombeau d'un amour fervent interrompu par la mort. Cette mélancolie plaisait à sa tristesse, et elle était venue rêver là, bien souvent. En découvrant que cette exquise retraite n'était que l'abri, habilement dissimulé des amours coupables du seigneur le plus inconstant de la cour, elle éprouvait un amer chagrin, une honte d'avoir tant aimé cette oasis, et un autre sentiment encore qu'elle ne voulait pas s'avouer. Elle s'était adossée à un arbre, irritée de cette souffrance, et serrant les bras sur sa poitrine comme pour écraser son cœur. Mais un rossignol, qui jeta sa plainte passionnée à travers la nuit, lui ôta toute sa force d'âme. Il lui sembla que c'était sa propre voix qui pleurait et gémissait dans la solitude, et une larme vint brûler ses paupières arides. Pourtant, elle secoua vite cette faiblesse et, reprenant son chemin, elle chercha la brèche dissimulée sous des branches qui lui permettaient de pénétrer dans le jardin. Sous les rayons de la lune qui vaporisait la rosée, avec la silhouette féerique de la haute montagne d'Alasie, apparaissant comme une nuée bleue à travers les floraisons invraisemblables, l'enclos faisait l'effet d'une création de rêve. Mais Comati ne songea pas à l'admirer. Elle s'avança rapidement vers le pavillon que l'ombre du cèdre couvrait de 1000 zébrures noires. Sans hésiter, elle pénétra sous la galerie élevée de quelques marches et posa la main sur le panneau à coulisses qui fermait l'entrée. Il ne résista pas à la poussée, glissa sans bruit dans la rainure. Par l'écartement, un flot de lumière bleue envahit la chambre. Les deux amants étaient endormis au bras l'un de l'autre, et autour d'eux, la moustiquaire en gaze de soie verte les mettait dans un brouillard. Comati, immobile, les regardait avec une involontaire avidité. Lui, pâle et comme attristé dans le sommeil, elle souriante sous le long ruissellement de ses cheveux. Mais cette grande clarté qui emplissait la chambre l'éveilla soudain, et elle se dressa avec un cri qui éveilla son compagnon. « Un fantôme !» gémit-elle en se serrant contre l'épaule de son amant. « Comati !» s'écria le prince. La douce lune, caressant de sa lueur les traits déjà flétri de la grande poétesse, lui rendait tout entière cette beauté, si parfaite qu'elle devait encore être citée bien des siècles plus tard comme incomparable et unique. Ce charme divin que, suicide étrange, elle détruisait volontairement. Nahihira, soulevée sur une main, la contemplait avec une stupeur mêlée d'extase, tandis que sa compagne, effrayée, se cachait le visage. « Va-t'en, va-t'en, méchant spectre » criait-elle. « Que veux-tu de nous? Que viens-tu faire ici ?»« Tu es bien pressé de me savoir au pays des ombres, » dit Comati. « Mais rassure-toi, Isako Tamura, je ne suis pas un fantôme. Bien que morte pour tout, je suis parmi les vivants et je n'ai rien de surnaturel. » « Alors, pourquoi es-tu là ?» dit Isako, prise de colère. « Toi, cruelle et froide statue, mais de quel droit viens-tu nous surprendre? Quelle perfidie mérites-tu pour nous perdre? Viens-tu pour railler ma faiblesse orgueilleuse qui n'a jamais aimé? Est-ce que tu peux comprendre, toi, l'ivresse où l'amour nous jette? Est-ce toi qui, pour l'enchantement d'un jour, risquerais ta vie et ton bonheur? Ah, va-t'en, va-t'en !» « Délivre-nous de ta vue !» Mais Nahihira murmurait, comme dans un rêve. « Ô vision céleste, reste encore, Et si tu n'es qu'un mirage du sommeil, que le réveil ne vienne jamais. Ah, mais tu viens donc me voler cette heure de bonheur qui n'aura pas de lendemain, s'écria Isaac au hors d'elle-même. Nous ne serons donc jamais délivrés de toi. Oh, mais si tu savais pourtant quel soulagement ton départ a causé à la cour. Qui donc pouvait seulement exister près de Komati? L'impératrice elle-même sentait son pouvoir chanceler, car par tes froideurs de déesse, tu te plaisais à troubler le cœur du Mikado, et tous les seigneurs ne soupiraient que pour un bel insensible. Mais ne crois pas que l'on te regrette. Ta dureté a laissé l'amour, et nul n'a oublié la mort du malheureux Chojo. Le remords ne hante-t-il pas ton sommeil à cause de lui? Tu voulais éprouver sa constance, et devenir sans nuit de suite à travers neige et tempête devant ton palais des montagnes. Te souviens-tu de l'avant-dernier matin où on le trouva pâle et froid, comme la neige qui lui servait de lit? Et qui donc aurait pu toucher son cœur, puisque le conquérant des âmes, Nahihira, pour qui je mourrais en riant, à pleurer en vain à tes pieds, toi, lui qui n'avais jamais pleuré. Ah, ces larmes ne sont pas encore taries, dit le prince en soupirant. Komati, Komati, pourquoi donc nous as-tu quittés? Alors, Komati répondit d'une voix lente et basse. Tu veux le savoir, Nahihira? Eh bien, avant de disparaître à jamais, à toi, je le dirai, le secret de mon âme, et ce sera la dernière fois que ma voix parlera du passé. Je n'étais ni cruelle ni froide comme on l'a cru, mais orgueilleuse et affamée de perfection. Je méprisais cette beauté qui me valait tant de vaines louanges, pour ne songer qu'à élever mon esprit. Hélas, mieux vaut peut-être rester au niveau commun. De plus haut, je ne vis autour de moi que petitesse et misère. Comment choisir un maître parmi moins grand que soi? Je ne voulais donner qu'une seule fois mon amour, et nul n'en était digne. Je le refusais à tous ceux qui croyaient m'aimer. Mais tu vins à la cour, Nahihira, toi, le poète délicieux, dont les vers chantaient sur mes lèvres. Et tu m'as paru beau comme la poésie. Alors je compris qu'on ne donnait pas son âme, mais qu'elle vous était prise, comme la rosée est bue par le soleil. Pourtant, j'eus la force d'être impénétrable, et quand un jour tu pleuras à mes pieds, te sachant le plus inconstant des hommes, j'avais déjà triomphé de ma faiblesse, je pus éviter d'être une fleur fugitive du bouquet de tes amours. Je fis serment alors de ne plus voir qu'avec l'esprit, d'aimer une âme tout à moi. Et je remarquai Chojo qui, depuis longtemps, secrètement m'adorait. Je m'aperçus bientôt que j'étais tout son univers. Il m'eût aimé laide et vieilli, il m'eût aimé toujours. Pourtant, avant de céder, je voulus encore éprouver sa constance, car hélas, sa forme terrestre peut cacher souvent son âme exquise, et si ma raison était charmée, mon cœur restait froid. Ah, il n'est plus l'ami fidèle. Il a prouvé qu'il m'aimait jusqu'à la mort, et dans un irrémédiable désespoir, je fuis à jamais cette cour frivole. J'expie longuement le crime inconnu de mon misérable cœur, dont je peux bien aujourd'hui avouer la honte. Sache-le donc, Nahihira. Au coffre de cèdre renfermant un trésor, j'ai préféré la charmante boîte d'or, qui n'était pleine que de parfums. Komati, Komati, s'écria le prince, tu m'as aimé, tu m'aimes encore. Oh, reviens, reviens, je n'aimerai que toi. Je mourrai vierge et solitaire, dit Komati en relevant la tête. Je resterai fidèle à l'amant qui m'attendra au sortir de la vie. Il vient souvent me visiter en mon rêve, me console et m'encourage. Il a ton âme adorable, ô Cholo, et ta forme trop séduisante, ô poète. C'est lui seul que je peux aimer. Ah, laisse cette folie sinistre, dit Nariira. Reprends ton rang et ta splendeur. Laisse-moi te conquérir par une longue épreuve. Sache-le, si j'étais vagabond, c'est ce que je cherchais. Ton amour était le seul but de ma course. C'était le palais magnifique après les hôtelleries de la route. Voilà qui est peu gracieux pour celle que tu perds aujourd'hui, dit Komati avec un rire moqueur. Ne la vois-tu pas qui sanglote dans les coussins? Écoute, Isako Tamura, j'étais venu pour te dire ceci. Ton mari est sur tes traces et a juré de te tuer. Hâte-toi de fuir. Tu sauras bien lui persuader par quelque habile mensonge que tu n'as pas quitté Kyoto. Et maintenant, adieu. Mon cœur a battu pour la dernière fois. Pour la dernière fois, j'ai parlé à des vivants. Et comme une vision s'évapore, elle disparut à leurs yeux.